En direct depuis l'Envy Bar à Genève, à l'hôtel Envy, notre invité, nous vous l'annoncions, et j'avais pas de soucis, je sais qu'il est toujours fidèle à nos rendez-vous, et particulièrement quand il s'agit de direct, Luc Ferry, la collection La Sagesse des Mythes. Une belle bienvenue. Bon, on s'est vu avant. On va pas faire comme à la télévision. On a déjeuné ensemble. Et
nous connaissons déjà depuis un petit moment.
Oui, ça fait. Je crois que il y a guère que Patrick Bruel où j'en suis à 30 interviews. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'on doit être pas loin de la vingtaine d'interviews avec. On se dit vous à l'antenne, hein, peut-être c'est mieux.
Oh, comme tu veux.
Comme tu veux. Alors, j'ai un principe, c'est quand on dit la vérité, on se dit tu, et quand on ment, on dit vous.
Bon, bah, Monsieur le ministre. On va se tutoyer.
On va se tutoyer.
Appelle-moi Excellence, comme dans, ou Ta Majesté.
Est-ce que les normes des choses, je devrais t'appeler Monsieur le ministre?
Non. Dans l'administration française, c'est une tradition, c'est-à-dire que les préfets ou les directeurs d'administration centrale ou un commissaire de police va m'appeler Monsieur le ministre, parce que ça on garde le titre à vie, malheureusement pas le salaire, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent. Mais dans l'administration, oui, ça se fait. Un recteur ou un préfet va garder ce tic. Mais enfin, c'est très français, ça n'existe, je crois, pas
nulle part
ailleurs.
Non, monsieur,
ici aussi, avant, chez vous aussi, vous êtes...
Nous avons une vaudoise à côté de nous. Si tu es président du club de boules, ouais. On va dire de Saint-Pré.
Et c'est toujours Monsieur le Président.
Ça sera toujours Monsieur le Président.
Ah oui. Président. Ah oui, vous aimez bien les titres aussi.
Bah écoute, le problème c'est qu'on n'a pas le pouvoir.
Oui.
Note, est-ce que les ministres ont le pouvoir en France?
Non, ni les ministres, ni le Président. Enfin, le Président de la République a le pouvoir de nommer des gens. Donc il y a un très grand pouvoir sur les hommes et un très peu de pouvoir sur les choses, sur le cours du monde. Pourquoi? Parce que, on va être sérieux deux secondes,
dans le
contexte de la mondialisation, comme on dit en français, de la globalisation, comme on dit dans toutes les autres langues, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus grand-chose. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'impuissance publique, parce que, ou en tout cas, elle est relative, bien sûr, mais elle est très grande, l'impuissance publique, parce que le marché est devenu mondial, mais les politiques sont restées locales, elles sont restées nationales. Il y a une politique allemande, française, suisse, etc. Bon. Et donc, encore une fois, dans le contexte de la mondialisation, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus grand-chose. Et c'est d'ailleurs un des grands arguments en faveur de l'Europe, c'est que c'est seulement au niveau régional, je parle de grandes régions comme l'Europe, par rapport aux États-Unis ou à la Chine, qu'on peut retrouver des moyens d'avoir du pouvoir sur le cours du monde. Mais cela dit, le président de la République peut nommer beaucoup de gens en France. Il peut nommer, y compris dans des chaînes de télévision ou dans des institutions culturelles, évidemment dans les ministères et les ministres eux-mêmes. Il a donc un pouvoir relativement important sur un certain nombre d'êtres humains, mais un pouvoir assez maigre sur le cours du monde, sur l'histoire en vérité. C'est ça qu'on vit aujourd'hui.
Juste parce qu'on en a déjà...
D'où mon bégaiement et
ma
capacité à répondre directement.
Tu replongerais parce que là...
Non, jamais, j'ai toujours dit 1000 fois. Non, on m'a proposé X fois de revenir. Non, c'est pas du tout mon métier. Moi, ce que j'aime, c'est écrire des livres, c'est ma vraie passion et donc...
Alors pourquoi tu l'as fait?
Parce qu'on me l'a proposé et que c'était très difficile de dire non, vu qu'on m'a proposé les quatre ministères qui m'intéressent, c'est-à-dire jeunesse, éducation, recherche et université, et que voilà, à l'époque où on me l'a proposé, on m'a dit que j'aurais carte blanche, ce qui évidemment n'était pas vrai, mais ça je ne le savais pas. Voilà, mais c'était quand même absolument passionnant, je n'ai ni regrets ni remords, mais quand on m'a proposé de recommencer, non, c'est pas non, par mépris, mais c'est pas mon métier.
Luc Ferry était malheureux à cette période-là?
Non, c'est un bonheur absolu, c'est passionnant. Enfin, bonheur, c'est trop dire, mais c'est absolument passionnant. Oui, bonheur, je dis c'est trop dire parce que c'est quand même extrêmement dur.
Non,
c'est passionnant, passionnant.
Pour toi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Parce que
non, le bonheur est une idée absurde.
Il y a une attachée de presse. Alors là c'est Glenna qui m'a envoyé un livre qui sort,
oui.
Qui s'appelle Les
Cette façon d'être heureux.
Voilà.
Mais c'est un livre sur ce qui nous donne de la joie. Mais l'idée de bonheur est une idée complètement absurde à mes yeux. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de la psychologie positive, on nous raconte des carabistouilles en expliquant que la grande thèse de la psychologie positive et des philosophes du bonheur aujourd'hui, qui reviennent souvent au bouddhisme, aux sagesses anciennes et puis à la psychologie positive, c'est que le bonheur ne dépend pas de la réalité du monde. Le bonheur dépend, comme chez les stoïciens, du regard qu'on jette sur le monde. Et par conséquent, ce qu'ils promettent à leurs lecteurs ou à leurs ouailles, d'une manière ou d'une autre, c'est que Si on change le regard sur le monde, si on fait des exercices de sagesse sur soi-même, on parviendra à être heureux de manière durable et même définitive, parce qu'encore une fois, le bonheur dépend du regard sur le monde plus que du monde lui-même. Je pense exactement le contraire. Je pense que le bonheur dépend de l'état du monde et surtout, mais ça en fait partie, des gens que nous aimons. Impossible d'être heureux si mes filles sont dans la détresse et dans le malheur. Et donc, je pense que oui, le réel est très important et que, en plus, je vais vous dire, il y a une dissymétrie totale entre le bonheur et le malheur. Le malheur, je sais parfaitement le définir. Le malheur, il est très identifiable. Quand le médecin vous annonce le cancer du pancréas, vous savez que ce n'est pas une bonne nouvelle. Si le gendarme vous annonce la mort d'un de vos enfants parce qu'il y a eu un accident de voiture, vous savez très bien ce que c'est que le malheur. Le malheur, c'est quand vous vous réveillez le matin et que vous savez que la possibilité même de la joie est impossible. Voilà. Et si on vous apprend la mort d'un de vos enfants, vous savez très bien que votre vie, elle est d'une certaine manière, elle est fichue. En tout cas, il y a quelque chose de mort en vous et c'est définitif. Ça ne reviendra pas. Et vous continuerez peut-être à avoir des moments de joie, mais certainement pas le bonheur comme un état stable auquel on parviendrait comme on arrive au port après la tempête, non. Et donc je pense que voilà, cette idée que le bonheur ne dépendrait pas des autres et ne dépendrait pas du réel est une idée totalement absurde. On a des moments de joie dans la vie, on a des plages de sérénité, mais encore une fois, le bonheur en ouvrant les chakras, en souriant trois fois par jour et en s'endormant avec des photos de sa maison de campagne, pardon, mais c'est une pure connerie, quoi. Il faut débrancher le déconomètre de temps en temps.
Et la joie, on en parle beaucoup aussi.
Oui, mais la joie, c'est éphémère c'est éphémère et c'est fragile. Voilà.
Ah,
on a des moments
j'ai
de joie.
Que ma joie demeure.
Oui, mais je ne suis pas Jésus et toi non plus. Et
ça
donc,
dépend.
Non, ça ne dépend pas. non, il n'y a rien à faire. Et justement, d'ailleurs, ça me permet de dire une chose. Je pense que la seule philosophie du bonheur, mais je ne suis pas croyant, qui tienne la route, c'est le christianisme. Parce que le christianisme nous promet qu'on va retrouver les gens que nous avons aimés en cette vie, après leur mort et après la nôtre. Et donc, lorsqu'on promet une joie éternelle, hein, la lumière éternelle, c'est-à-dire le paradis, mais la vraie promesse du Christ, c'est la résurrection de Lazare. Quand Jésus apprend la mort de son ami Lazare, souvenez-vous, il pleure. Et il fait exprès d'attendre 2 jours, 3 jours, pour que le corps de Lazare, dit le texte de l'Évangile, pue, hein, qu'il sente mauvais, que tout le monde s'aperçoive que Lazare est vraiment mort, que sa chair est putride, elle sent mauvais. Il est pourri, tout simplement. Et donc, la promesse chrétienne, c'est la promesse de la résurrection des corps, et donc c'est la promesse que l'amour est plus fort que la mort, et donc c'est une promesse de bonheur éternel, mais dans l'au-delà, pas dans l'ici-bas, évidemment.
Ouais.
Et donc, oui, bien sûr, si on y croit, pourquoi pas. Moi, je ne dissuade pas les gens de croire, mais sinon, le bonheur est forcément pour nous mortel, si on n'est pas croyant, quelque chose d'éphémère et de très fragile, et très dépendant des autres.
Puisqu'il y a cette série, La sagesse des mythes, qui fait qu'on se rend compte aujourd'hui, et j'en suis heureux. Tu nous parlais tout à l'heure de la notion d'espoir chez les Grecs.
Oui.
Et que la notion d'espoir, ça m'a passionné, puisque...
L'espoir, pour les Grecs, c'est la pire catastrophe, la pire calamité qui soit. Contrairement aux chrétiens, Jean-Paul II avait écrit une très belle encyclique qui s'appelait « Entrer dans l'espérance ». Et l'espérance chrétienne, c'est justement l'espérance de retrouver après la mort ce que nous avons aimé en cette vie. C'est l'espérance de la vie éternelle, et de la lumière et de la vérité éternelle, et d'être dans l'amour du Christ et des siens. Mais pour les Grecs, l'espérance, c'est la pire punition qui soit. Pourquoi ? Parce que l'espérance est toujours le signe d'un manque. Si vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre. Si vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade, etc. Et donc, pour les Grecs, l'espérance est toujours le signe d'un manque. Et pour les Grecs, et on trouve ça dans l'histoire d'Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, d'ailleurs, je commence la série des Dédés avec l'Iliade et l'Odyssée pour ça. Il y a deux mots, deux fléaux qui pèsent sur la vie humaine, c'est le passé et le futur. Autrement dit, la nostalgie et l'espérance. Regardez l'histoire d'Ulysse, c'est très intéressant. Ulysse, c'est l'histoire d'un roi grec qui va être obligé de partir dans cette horrible guerre qui est la guerre de Troie. Il va donc être en guerre hors de chez lui pendant 10 ans, et puis après un voyage terrifiant pendant 10 ans. Donc pendant 20 ans, Ulysse est dans l'espérance d'Ithaque, mais pas dans l'amour d'Ithaque, ça lui manque. Ithaque, c'est sa ville, hein. Il est dans l'espérance de retrouver son petit garçon, Télémaque, sa femme Pénélope, retrouver sa ville et son palais. Mais il est soit dans la nostalgie d'Ithaque, soit dans l'espérance d'Ithaque, il n'est jamais dans l'amour d'Ithaque. Et les stoïciens disaient, le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Nietzsche dira amor fati, l'amour du fatum, c'est-à-dire l'amour du présent, de ce qui est là. Le sage est celui qui parvient à se réconcilier avec le présent. Et au fond, Ulysse ne parviendra à être dans le présent, dans l'amour, que quand il aura rejoint Ithaque et qu'il aura évidemment vaincu cette nostalgie et cette espérance. Donc pour les Grecs, quand Zeus veut punir les mortels, il leur envoie l'espérance.
Parce qu'il y a ce truc d'Apollinaire qui s'appelait la chanson du mal-aimé, près d'un tapis de haute lys, sa femme attendait qu'il revînt.
Est-ce que tu es cultivé ?
Mais c'est pas ça, c'est que je me suis toujours posé la question.
J'aime bien le caisser un peu, mais réponds sérieusement, vas-y, je t'écoute.
je t'ai expliqué, Rantan, le problème avec toi, c'est-à-dire que je t'ai connu ministre.
Et maintenant, je suis dans le caniveau, c'est ça que tu veux dire. Non, je rigole, vas-y.
Non, c'est pas gentil de rigoler d'un...
Surtout Apollinaire, vas-y, je t'écoute. Non,
Apollinaire, quand il dit ça, moi j'avais du mal à comprendre, parce qu'il était profondément baigné dans la culture hellénique, non, Apollinaire ?
Ah oui, mais alors, on peut être baigné dans la culture hellénique et rien y comprendre.
Ouais, puis il avait été très pané.
Voilà. Il y a énormément de gens qui ont fait du grec et du latin quand ils étaient petits et qui, pour autant, j'ai fait du grec et du latin au lycée, et puis j'avais des profs qui nous faisaient traduire ça. Là, on traduisait Platon, Aristote ou je sais pas quoi, mais c'était uniquement le côté linguistique, l'outil de la langue qui les intéressait. Mais si là, il fallait expliquer Épicure.
D'accord, mais est-ce que le sens, je peux quand même dire que par rapport à ce poème, pour moi qui a été longtemps hermétique, après il y a des profs qui m'ont aidé à certains niveaux, et tout d'un coup cette notion d'espoir, excuse-moi, ça m'a échappé, ça m'a échappé, mais pourquoi il revient ? Il revient parce qu'il a la conscience, c'est l'espoir qui le guide ?
Il est bien sûr dans l'espérance de retrouver Ithaque, mais ça veut dire que tant qu'il est dans l'espérance de retrouver Ithaque, il n'est pas dans Ithaque, donc il est quand même dans le malheur. Et donc il est extrêmement malheureux. Par exemple, quand il est chez Calypso, pendant 7 ans, la nymphe Calypso, tous ces noms ont du sens en grec. Calyptein, ça veut dire caché, garder. Calypso, donc, qui tombe amoureuse d'Ulysse, elle va le garder, le cacher sur son île pendant 7 ans. Et Ulysse, chaque soir, va s'asseoir sur un rocher, il regarde la direction d'Ithaque, il espère revenir à Ithaque, mais il pleure toutes les larmes de son corps tous les soirs, jusqu'à ce que Athéna l'entende. Elle va voir Zeus, elle demande à Zeus de donner l'ordre à Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui. Et donc, l'espérance, bien sûr, il est dans l'espérance, mais c'est un malheur absolu.
Cette série, cette collection, c'est toi qui la suscite ou on vient de chercher? C'est Glenna qui vient, comment ça se passe ?
En fait, c'est mon ami Eric Orsena qui était chez Jacques Glenna, et ils discutaient tous les deux de projets de bande dessinée. Eric a écrit beaucoup de livres sur le papier, sur l'eau, sur l'histoire de la mondialisation. Et donc, Glenna lui proposait de faire des BD à partir de ses livres. Et ils m'ont appelé tous les deux. Eric avait eu l'idée, et Glenna avec lui, de me proposer. Ils m'ont appelé tous les deux. Le téléphone sonne chez moi. Et c'est Eric Orsena au bout du téléphone et qui me dit « Voilà, on a une idée géniale, il faut que tu fasses les grands mythes grecs, parce que j'ai travaillé 40 ans sur cette mythologie, et donc il faut que tu fasses les grands mythes grecs en BD. » Ce qui m'a séduit, en fait au début, moi je ne suis pas du tout fan de BD, j'y connais rien, mais ce qui m'a séduit, c'est que on m'a dit que j'ai une équipe de dessinateurs absolument formidable, que je pourrais à la fois raconter les récits en partant. Je suis toujours parti des matrices originelles des mythes, parce qu'il faut savoir que la mythologie grecque, ça s'étend au moins sur 13 ou 14 siècles. Entre Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ, et puis par exemple Nonos de Panopolis, le 5e siècle après, qui est un des derniers grands mythographes, vous avez 13 siècles. Et donc, je suis toujours parti de la première version des mythes, et ce qui m'a charmé dans le projet de BD, c'est que j'ai eu une équipe de dessinateurs qui a fait un travail d'iconographie absolument magnifique. C'est-à-dire que tout est juste, aussi bien sur le plan du récit, où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bêtises, alors que dans les ouvrages de vulgarisation, il y en a constamment, c'est bourré d'erreurs. Et surtout, au niveau du dessin, que ce soit les vêtements, les bijoux, les armures, les intérieurs des maisons, les lits, les meubles, les couverts, les verres, les armes, les bateaux, tout ça est absolument conforme à ce que c'était dans la Grèce du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ils ont fait un travail d'iconographie, j'y ai tenu évidemment beaucoup, qui est absolument magnifique. Et puis encore une fois, je suis toujours parti des premières versions des mythes pour raconter les versions originelles. Et quelquefois, quand les versions secondaires sont intéressantes, souvent par exemple dans les Métamorphoses, cause d'Ovide, il y a souvent des variantes qui sont très intéressantes. Je les indique parce qu'il y a une dizaine de pages à la fin de la BD pour indiquer justement de quelle source je me suis servi. Et donc, je voulais que ce soit à la fois au niveau d'un doctorat à la Sorbonne, mais évidemment lisible par tout le monde. Ce qui est le charme des mythes grecs, un petit peu comme les paraboles de Jésus, les paraboles des évangiles, c'est que, ou comme les contes de fées tels que les Grimm les ont, c'est que vous pouvez comprendre à plein de niveaux différents. Les paraboles du Christ, comme les mythes grecs, ça parle à un enfant de 6 ans, mais vous pouvez faire un doctorat de théologie sur les paraboles du Christ ou un doctorat d'État sur la mythologie grecque. Donc c'est ça qui est bourré de charme. Et donc j'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, parce que encore une fois, j'ai trop vu de bêtises, y compris quelquefois dans des livres qui sont censés être savants, où on confond, je ne sais pas, par exemple, on confond Argos, le monstre aux 100 yeux, avec Argos, l'architecte des Argonautes, ça n'a rien à voir. Et c'est bourré d'erreurs comme ça. Et je trouve que ce n'est pas parce qu'on s'adresse à des enfants qu'il faut faire des erreurs. Au contraire, si vous vous adressez à des jeunes, à des enfants, puisque tout le monde peut lire ça à partir de 6 ou 7 ans, il ne faut pas qu'il y ait de bêtises à l'intérieur. Voilà.
Et après, c'est la liberté totale par rapport à la façon dont les récits s'enchaînent
parce non. Que... non, parce que vous avez... Il y a des très grands mythographes. Vous avez par exemple la bibliothèque d'Apollodore au IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous aviez Apollonius de Rhodes. Vous avez des très grands mythographes qui ont synthétisé, qui ont eux-mêmes déjà rassemblé tout ce qu'on savait sur tel ou tel personnage ou sur tel ou tel mythe. Hein, par exemple, on a... Alors, il faut avoir compris la structure. Par exemple, on a plusieurs versions du mythe de Tantale, par exemple. Mais il faut comprendre la structure des mythes pour s'y repérer. Je vous indique la structure en 3 secondes, si vous voulez. Enfin, 3 secondes, un peu plus, parce qu'il y a un fil conducteur qui est génial. Et tous les mythes répondent à ce fil conducteur, qui est absolument génial. Quand Zeus a gagné la guerre contre les titans, Zeus donc gagne la guerre contre les premiers dieux qui sont des dieux du chaos, qui sont des dieux de la guerre, qui sont des dieux de la violence, qui ont une force titanesque, sont les titans. Et ce sont les parents des Olympiens, c'est le père de Zeus, s'appelle Cronos. Et donc Zeus gagne la guerre contre les titans, contre son propre père. Que fait Zeus dès qu'il a gagné la guerre contre les titans? Il partage le monde. En allemand, ça s'appelle Urteil, c'est le partage originaire. Et il dit, bon, Uranos, tu gardes le ciel, Gaïa, ma grand-mère, tu gardes la terre, Tartare, tu prends les sous-sols, mon frère Poséidon, tu prends les océans, etc. Et donc, il partage le monde. Et Zeus, il a eu 2 femmes très importantes. Métis, sa première femme, qui est l'intelligence, il l'a avalée. Il lui a demandé de se transformer en goutte d'eau, et comme le chaboté qui avale l'ogre, qui est devenu une souris, il avale Métis, il est devenu intelligent. La deuxième femme s'appelle Thémis, c'est la justice. Et les cyclopes, qui s'appellent foudre, éclair et tonnerre, lui ont donné ses armes. Ce qui fait que Zeus, il est intelligent comme Métis, il est juste comme Thémis, et il est fort comme les cyclopes. Et muni de cette intelligence, de cette justice et de cette force, il va maintenir le cosmos en état. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toujours des résurgences des forces titanesques, des forces chaotiques des origines. Et Zeus fabrique des héros, comme Héraclès, comme Persée, comme Jason, comme Thésée. Il fabrique des héros ou il sollicite des héros pour casser la gueule, si je puis dire, à ces monstres qui menacent le cosmos de destruction, de revenir au chaos. Et le cosmos, en grec, c'est un ordre harmonieux, c'est ce que Zeus a installé quand il a partagé le monde. Le monde est devenu un cosmos juste, beau, harmonieux et paisible. Et c'est... quel est l'enjeu? Il faut comprendre, ce n'est pas les dieux qui ont inventé la mythologie grecque, ce sont des humains, c'est les Grecs qui ont inventé la mythologie grecque. Et l'enjeu est le suivant, c'est que pour les Grecs, la vie bonne, pour les mortels, pour nous, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. C'est ce que Ulysse réussit à faire quand il arrive à Ithaque. Ulysse se met en harmonie comme si nous étions chacun d'entre nous des petits fragments de puzzle qui s'ajustent au grand puzzle cosmique, si vous voulez. Et donc, on a là quelque chose d'extraordinairement profond, c'est que si les monstres détruisaient l'ordre cosmique, alors les humains ne pourraient pas accéder à la vie bonne, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus se mettre en harmonie avec l'harmonie du monde si cette harmonie du monde avait été détruite. Ça, c'est le fil conducteur de tous les mythes grecs. Voyez. Et donc, quand on a compris le fil conducteur, on peut choisir dans les différents récits ce qui colle avec l'idée générale et puis ce qui a pu être ajouté par des Romains tardifs qui étaient sortis de la mythologie grecque et qui n'y comprenaient déjà plus grand-chose.
Et le sens pour aujourd'hui?
Bah, le sens pour aujourd'hui, il y a 1000 retombées. D'abord, pour nos enfants et pour nous-mêmes, ça parle du sexe, ça parle de la mort, ça parle de la guerre, ça parle de l'amour, ça parle de l'hypocrisie, du mensonge, de la trahison. tout y est. Donc du point de vue littéraire, c'est le gros avantage de la mythologie grecque par rapport à la philosophie, c'est que littérairement, tout est là. Bon. Et puis, par exemple, pour donner un deuxième exemple, dans la mythologie grecque, on va trouver l'idée que l'espèce humaine, depuis que Prométhée a donné les techniques et le feu aux êtres humains, et que l'espèce est devenue prométhéenne, comme on dira, l'espèce humaine est la seule qui soit capable de détruire l'ordre cosmique installé par Zeus. Mmh. Ça s'appelle l'hubris chez les Grecs, la démesure, l'arrogance, l'orgueil. Mais la vraie traduction, c'est démesure. Parce que, et sur le temple d'Apollon figurait déjà à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, sur les temples d'Apollon figuraient déjà deux inscriptions qui sont extrêmement profondes. Rien de trop. Et connais-toi toi-même, gnotis et auton, connais-toi toi-même. Ça veut dire quoi ? Ne pêche pas par hubris, ne te prends pas pour un dieu. Par exemple, quand Tantale invite les dieux à déjeuner chez lui, Tantale était très prétentieux, il pêchait par hubris, et donc il pensait que les dieux n'étaient pas omniscients, il voulait prouver que les dieux n'étaient pas omniscients. Il leur donne à manger son fils Pélops, qui a donné d'ailleurs le Péloponnèse. Son fils Pélops, il le tue, il le fait bouillir, il le fait rôtir, il sert ça aux dieux. Et les dieux sont en fait omniscients, ils s'en aperçoivent. Et donc, dans la mythologie grecque, ça, petite remarque au passage, mais qui est très très significative, tous les châtiments ont un rapport symbolique avec le crime commis. Tantale a péché par la nourriture, il sera puni par la nourriture. Alors par exemple, dans toutes les versions du mythe de Tantale, il y a plusieurs punitions. Je retiens celle qui a du sens. Le supplice de Tantale, la faim, la soif. Et n'oubliez pas que dans le supplice de Tantale, non seulement il a faim, il a soif éternellement, mais il y a un énorme rocher qui se balance au-dessus de sa tête. Ça, on oublie toujours de citer cet élément du supplice de Tantale. C'est pour lui rappeler qu'il est mortel, qu'il n'est pas un dieu et qu'il peut être écrasé par le rocher. Voyez, il s'est pris pour un dieu, il a péché par la nourriture, il va être puni par la nourriture et on va lui rappeler qu'il n'est qu'un mortel. Voilà. Et donc, voilà, dans le choix des différentes versions, parce qu'il y en a en effet, par exemple, pour les travaux d'Héraclès, il y a 30 versions différentes, il faut avoir compris le sens des mythes grecs, le sens général, pour pouvoir choisir un récit qui est cohérent et, encore une fois, toujours partir de la première version. Donc, c'est pour ça qu'il y a un apparat critique où je raconte à la fois le sens du mythe, la signification, mais aussi quels sont les textes dont je me suis servi pour construire le récit.
La sagesse des mythes, Luc Ferry, c'est une des très belles expériences de ta vie ?
C'est 40 ans de travail. Moi, j'ai commencé quand
c'est l'aboutissement, ça.
Oui, c'est ça. Et en plus, vraiment, ce qui m'a enchanté, c'est que, comment dire, il faut le voir, évidemment, mais les dessins sont d'une beauté incroyable. Voilà.
Ouais, par exemple,
la couverture de l'Iliade, c'est sublime. On voit la belle Hélène, qui est un personnage fascinant aussi, Hélène, c'est une merveille.
J'ai juste une question, Luc. Il t'arrive de t'ennuyer ?
Non, ça m'est jamais arrivé de ma vie de m'ennuyer, non. Il y a des gens qui peuvent m'emmerder, mais c'est autre chose. Mais sinon, m'ennuyer tout seul, non, ça, c'est pas possible parce que je travaille tout le temps, je lis tout le temps, j'écris tout le temps. Et donc, je peux pas m'ennuyer. Puis même si j'ai pas un livre, voilà, le cerveau fonctionne.
Ça a toujours été le cas.
En gros, depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire depuis le jour, quand j'avais en gros une quinzaine d'années, j'ai décidé de consacrer ma vie à la philosophie. Ça m'a passionné. Et puis, je me suis dit, je vais y consacrer ma vie. Et donc, depuis ce moment-là, je ne me suis plus jamais ennuyé. Voilà, un tout petit peu au service militaire, parce que quand il faisait très très froid, je me souviens de mois de janvier épouvantable où on avait les pieds qui gelaient dans la neige, ça peut être un peu casse-pied, mais c'est le cas de le dire. Mais sinon, non, c'est impossible de m'ennuyer, je peux pas. Et puis, voilà, j'ai toujours des papiers sur moi, des feuilles de papier, et chaque fois que je suis dans un avion, un train ou n'importe quoi, où il y a des endroits où on peut pas aisément faire des choses utiles, je construis des plans de livres ou des... Voilà, ça m'amuse toujours. Et j'ai 50 livres dans la tête encore et je mourrai avant de les avoir écrits, ce qui est quand même
la bonne nouvelle
pour mes éditeurs.
Et la vie, quoi. La vie, quoi. Parce que tu as des enfants, tu as une
épouse. Oui, j'ai trois filles sublimes et une femme adorable. Mais j'ai toujours pensé qu'il fallait faire les deux. C'est-à-dire que de même que j'ai été un vrai universitaire, j'ai passé 20 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands. Il y a Kant, Hegel, Schelling, Fichte, Adorno, Horkheimer et beaucoup d'autres. Bon, et j'ai traduit par exemple la critique de la raison pratique dans la Pléiade. Bon, j'étais un des. Enfin, bon, peu importe. Mais enfin, j'ai les tampons, quoi. J'ai fait un doctorat d'État, j'ai passé les agrès, etc. Mais en même temps, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas être que universitaire, qu'il fallait aussi s'adresser au grand public et qu'il fallait vivre aussi. Voilà.
Oui, mais alors la vie.
Il faut vivre. Ça veut dire qu'il ne faut pas. Le problème, beaucoup.
Ton épouse, que je ne connais pas, vous êtes à table, tout d'un coup ton regard s'échappe, c'est pas forcément parce qu'il y a une belle femme qui passe, c'est peut-être parce que t'as une idée.
Oui, mais
est-ce qu'elle te dit que tu es difficile à vivre ou pas ?
Oui, mais pas pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'en fait, on s'ennuie jamais. On s'engueule toute la journée, on se réconcilie toute la journée. C'est jamais arrivé qu'on s'ennuie ou qu'on ne parle pas. Donc, il y a toujours mille choses à raconter, à entendre. Et puis, je regarde ce qu'elle fait de son boulot à elle. Elle regarde ce que j'écris. Voilà. Mais il faut aussi vivre. C'est-à-dire que, voilà, une fois que j'ai travaillé 12 heures dans la journée, je vais sortir jusqu'à minuit ou 1h du matin pour aller dîner avec des amis. Parce que je pense que si on ne vit pas dans le monde réel, on peut pas non plus écrire de bons livres. Moi, je pense que
juste une chose qui me
les deux se complètent si tu veux.
Ouais, la question que je me pose, parce que j'ai plutôt l'occasion, même si par bonheur j'ai eu la sage décision à un moment donné de pouvoir dire je veux rencontrer tous les gens qui m'intéressent,
oui,
et à qui j'ai à poser des questions. Il se trouve qu'il y en a eu une multitude.
Oui.
Par exemple, les chanteurs de jazz ou les musiciens, il y a un moment donné où tu fais le choix de faire de la musique en sachant que c'est casse-gueule. Dans ton domaine aussi, c'est casse-gueule. Même s'il y a des études, il y a des diplômes, etc. etc.
Oui.
Est-ce qu'à un moment donné, tu l'as dit tout à l'heure, 15 ans, j'ai voulu consacrer ma vie à la philo. Oui, oui. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre ou est-ce que c'était marqué dans ton destin?
Je savais que c'est ce que je ferais toute ma vie, mais en même temps, c'était très
difficile.
Oui, oui, parce qu'il faut quand même vivre aussi, il faut gagner sa vie. Comme quand j'ai passé la grecque de philo et le CAPES, enfin c'est les concours de recrutement des profs, parce que en gros au début, comme je venais d'un milieu extrêmement pauvre, pour dire les choses franchement, voilà, mon père était un type génial, il fabriquait des voitures de course, mais il y a eu un moment où il y a eu la guerre israélo-arabe et les courses en France, les courses de voitures ont été interdites pendant un an, donc il a été obligé de mettre la clé sous la porte, c'est tout. Il n'y avait plus de clients, il ne pouvait plus travailler. Bon, il avait fabriqué une quinzaine de voitures de course magnifiques, mais plus personne ne s'en puisque les courses étaient interdites. Donc faillite, enfin pas faillite, mais ferme la boutique, plus de ressources. Bon. Et donc moi, j'ai passé ma vie vraiment dans la... Il fallait que je vive, il fallait que je gagne ma vie très tôt. Bon. Et donc la grecque de philo, le CAPES, c'était le seul moyen d'y arriver. Quand j'ai passé le CAPES, je me souviens, il y avait 2500 candidats, il y avait 35 postes.
Oh.
Et moi, je venais de la campagne, mes parents n'avaient pas fait d'études, donc je me disais, bon, bah, j'y arriverai jamais, c'est tout. Et je voyais tous les gars qui sortaient des lycées parisiens, en plus, je venais de la campagne. Donc, ils sortaient des lycées parisiens, Henri IV, Louis le Grand, les grands lycées parisiens, ils avaient fait Hippocagne et Cagne, ils étaient vraiment dans l'élite des élèves de l'époque. Et moi, je venais comme un petit pecno, un petit paysan qui venait qui n'avait jamais habité Paris, et dont les parents n'avaient pas fait d'études. Et j'étais un outsider complet. Donc, je me suis dit, à cette époque-là, c'était un peu angoissant parce que je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Voilà.
Donc, c'est quoi une question?
Et puis, bon, il se trouve que
j'ai
été reçu assez à ces concours quand même. Et je suis parti faire mes études en Allemagne, ce qui a été évidemment une chance extraordinaire parce que ça a été un moment de bonheur absolu. Et puis, j'ai gagné ma vie en jouant de la guitare classique dans une Kneipe pendant des années. C'était formidable. J'ai rencontré un tas de gens. C'était merveilleux. Bon, et après, il se trouve que j'ai eu la chance d'être prof d'université, d'être au CNRS, d'être chercheur. Bon, tout ça s'est arrangé. Mais c'est quand même beaucoup de chance. Il y a beaucoup de travail, mais beaucoup de chance aussi. Il faut les deux, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui vous soutiennent, qui vous aident, parce que tout seul, on n'y arrive jamais quand on vient d'ailleurs, quand on n'est pas tombé dedans quand on était petit.
Luc Ferry, parce que l'heure qu'on passe ensemble va bientôt se terminer, le moment qu'on passe ensemble va bientôt se terminer. Deux choses qui me préoccupent, puisque j'ai choisi ce métier aussi pour pouvoir poser des questions à des gens qui peuvent peut-être y répondre, c'est la place de la vérité dans la vie, toute chose.
Oui.
C'est-à-dire dans le travail, dans l'amour, vis-à-vis de soi-même. Est-ce que l'on peut être vrai en permanence ?
Non. Je pense que dans le travail philosophique, oui. Moi, j'ai toujours préféré la vérité à toute autre chose, c'est même à la profondeur ou à la. Il y a une esthétique de la fausseté. On peut très bien choisir à tel ou tel moment de défendre telle ou telle idée. Quand j'étais gamin, tous mes camarades étaient maoïstes, par exemple, parce que c'était ce qu'était Chicos à l'époque. Mais ils savaient très bien que c'était quand même de la connerie en barre. Il y a eu 70 millions de morts. Bon, et donc il y avait une certaine mauvaise foi. J'ai gagné énormément de temps dans ma vie intellectuelle en choisissant toujours la vérité plutôt que le mensonge et plutôt que ce qui était à la mode. En revanche, dans la vie amoureuse, dans la vie de famille, dans la vie amicale, affective, la transparence absolue n'est pas quelque chose qu'on puisse toujours recommander ou pratiquer. Quel est le degré de transparence qui est souhaitable dans un couple, par exemple ? Très difficile à dire. Si on et en amitié, c'est pareil. Vous vous souvenez de cette série qui s'appelait Chapeau blanc et bottes de cuir, ouais. Très drôle, très élégante, très british. Il y a un moment où il y a un des épisodes de la série où un chercheur a fabriqué une potion qui oblige les deux héros à dire la vérité en permanence. Et c'est horrible. Si on devait dire la vérité en permanence, mais attends, le monde deviendrait totalement insupportable. Le mensonge de politesse a quand même une certaine valeur. Et donc, si on devait dire aux gens ce qu'on pense en permanence d'eux, si on devait, dans les relations humaines, être absolument dans la vérité, on serait un porc luthérien insupportable. Luther était comme ça, il disait tout le temps la vérité, il était très très brutal, il était... C'est intéressant Luther, moi j'aime beaucoup Luther, j'ai lu et relu les grands écrits réformateurs, mais c'est l'opposé absolu de la civilité française. C'est vraiment la brutalité de la vérité. Luther, c'est celui qui va mettre entre parenthèses la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine de la Bible, pour revenir à l'araméen et au grec. C'est l'inventeur de la philologie. Pourquoi ? Parce qu'il veut éviter les médiations sociales, il déteste la politesse, il rote, il pète à table, et c'est vraiment... Voilà, mais parce que pour lui, il faut être dans la vérité en permanence. D'ailleurs, toute l'opposition entre l'Allemagne, moi qui ai fait mes études en Allemagne, et puis la France, elle est là. C'est-à-dire, d'un côté, il faut être gründlich et sachlich, il faut être dans la vérité vraie, dans la profondeur, alors que la civilité, l'hypocrisie française fait horreur aux Allemands, ou en tout cas les fascine. Bon, et donc cette espèce de haine, amour réciproque entre l'Allemagne et la France est très très liée à cette question. Vérité en philosophie, oui, mais dans les relations humaines, il faut un peu de mensonge, de politesse.
On arrive donc au terme de cette émission. On a évoqué tout à l'heure un sujet des anciens à qui on disait, Pierre Tchernia, pour moi, c'est l'exemple qui venait. Je disais, tu me fais 2 minutes 50 et il me faisait 2 minutes 50.
Oui.
Et Luc Ferry, qui est en face de moi, a dit je peux. je peux. On vient de parler de la vérité du mensonge. Alors, Diana, qui est là et que je remercie de nous avoir fait confiance, puisqu'on a passé ce moment avec toi, Luc, sur Geneva Live Radio, aussi grâce à elle. On rappelle, la série, c'est donc La sagesse des mythes, Luc Ferry, avec plein d'auteurs. Ça sort en permanence. Vous allez sur tous les sites, Glénat particulièrement, pour trouver, dans toutes les bonnes librairies. Donc, je vais te donner ce que je faisais jadis et qui m'a valu peut-être une partie de ma réputation. Cet exercice terrible, c'est de t'offrir une minute.
Une minute.
Une minute de liberté absolue.
Attends, donne-moi un thème parce que...
une minute. on vient de passer un moment ensemble assez long. Je te donne une minute pour en faire, Luc Ferry, exactement ce que tu veux. Pour preuve, je coupe mon micro. À toi.
Eh bien, la philosophie, c'est, Hegel disait, c'est son temps saisi dans la pensée. Ihre Zeit in Gedanken erfasst. Son temps saisi dans des pensées. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la philosophie, c'est pas seulement de penser la mythologie grecque, mais c'est aussi de penser la troisième révolution industrielle, l'ubérisation du monde, le transhumanisme, et que aujourd'hui, les GAFA sont en train, les Google, Apple, Amazon et Facebook, de dominer le monde. Ils sont plus puissants que des États. Et donc, il faut aussi que la philosophie s'intéresse à son temps. Hors nostalgie et espérance. Pensez le présent. Très important. 58 secondes.